Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du budget. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation alors que le budget 2026 de la Calédonie a été adopté la semaine dernière par les élus du Congrès. Une élection à l'unanimité avec l'abstention des élus UC, FLNKS. Je vous ai entendu dire, Christopher Gigès, que vous étiez plutôt fier de ce budget, c'est vrai ?
Oui, je suis plutôt fier. Pas fier pour moi, fier de l'image qu'on a pu rendre au Congrès. Ça avait débuté lors du débat d'orientation budgétaire en décembre où on avait été en capacité également de faire un vote à l'unanimité. Et là, lors du vote de ce budget, les débats ont été constructifs. Le ton n'est pas monté et on a réussi à avoir un vote à l'unanimité qui, je crois, dans le contexte actuel avec des élections municipales, une instabilité institutionnelle, une crise économique, je pense que c'est quand même un bon message que quand on travaille ensemble, on arrive à produire des choses et des choses positives pour les Calédoniens.
Ça veut dire quoi ? Qu'il y a une vraie prise de conscience de la situation, de la difficulté de la part de quasiment tous les groupes politiques du Congrès aujourd'hui ?
Il y a eu ça, mais il y a aussi une volonté de méthode de la part du gouvernement, c'est-à-dire une nouvelle méthode de travail, c'est qu'on a pu associer l'ensemble des groupes politiques dès le début de l'élaboration du budget, à la fois dans les objectifs qu'on tirait sur ce budget, mais également dans le rapport de force qu'on a eu avec l'État. Parce qu'au tout début, j'étais venu sur votre antenne pour dire que je n'inscrirais pas dans ce budget le remboursement des prêts, puisque je considérais qu'il fallait privilégier le remboursement, enfin le paiement des retraites des Calédoniens au remboursement de la dette avec l'État. Et donc ça, on a été en capacité de le porter ensemble, à la fois avec les partenaires sociaux, mais également avec les différents groupes politiques. Et je crois que le fait d'être associé dès le début a permis d'avoir une prise de conscience des difficultés actuelles de la Nouvelle-Calédonie et donc de tirer dans le même sens, et je le dis, de tirer dans le sens de la Nouvelle-Calédonie.
C'est un bras de fer un petit peu avec l'État qui a finalement marché, ou il ne faut pas le voir sous cette forme-là ?
Ça a été un dialogue exigeant, si on ne veut pas utiliser le mot bras de fer, même si ça a été quand même un peu ça, puisqu'on a eu quand même des relations très dures, puisque les premières réponses de l'État, c'était que si vous n'inscrivez pas le remboursement des prêts, le budget serait insincère et on ne verserait pas les 300 millions d'euros qui étaient prévus. Donc on a eu un dialogue exigeant, on a été plusieurs fois à Paris échanger. Je crois que l'État s'est rendu compte également des réformes qui ont été faites par la Nouvelle-Calédonie, avec une baisse quand même de 15 milliards de nos dépenses publiques, des choses qu'en métropole, ils n'arrivent même pas à faire le quart du dixième de ce qu'on est en train de réaliser en termes de réformes. Et ensuite, il y a eu la séquence sur l'avenir institutionnel qui a permis d'acter les discussions qu'on avait menées.
Ça a été un facilitateur quand même, cet épisode de discussion à Paris, ou est-ce que c'est aussi la mission interministérielle qui a joué un rôle dans...
Les deux, Madame Durieux a joué un rôle important dans le fait que ça se passe bien. C'est par rapport à ses prédécesseurs, très clairement, il y a une méthode de travail qui est beaucoup plus dans l'accompagnement des Calédoniens et pas dans la menace de dire si vous ne faites pas de réforme, il n'y aura pas d'aide de l'État. Et la partie à venir institutionnelle, il y a eu de la part des différents représentants la volonté aussi commune de dire on avance sur l'avenir institutionnel, l'État fait un geste pour qu'on avance sur l'économie et qu'on puisse donner de la visibilité aux Calédoniens pour le paiement des retraites, pour assurer la viabilité du RUAM, pour assurer le paiement des salaires des différentes collectivités et d'assurer une relance de l'économie calédonienne.
C'est ce dialogue exigeant avec l'État, pour reprendre votre terme, qui vous a empêché de faire adopter le budget avant le 31 décembre. C'était un peu le challenge que vous deviez relever, que vous vouliez relever en tout cas.
Ouais, on l'a fait voter un mois avant par rapport à l'année dernière. Donc c'est quand même déjà c'est déjà beaucoup.
En net progrès.
On s'était dit qu'on voulait le faire voter avant le 31 décembre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On était prêts, sauf qu'on a eu une réponse de l'État qui était négative le jour où on allait présenter le budget, ce qui nous a obligés de faire de nouveaux arbitrages. On l'a voté la première semaine de janvier. Enfin, pour moi, le principal, c'est au final, pas la question de la date, c'est une question qu'on a réussi à mettre dans ce budget, ce qui intéresse les Calédoniens, c'est-à-dire le fait que on a deux années blanches, on a des transformations de prêts en subventions, on a les retraites qui sont pérennisées. J'insiste beaucoup sur les retraites parce que la CAFAT nous alerte depuis maintenant des mois que les retraites du secteur privé étaient en cessation de paiement au mois de juin, c'est-à-dire que les retraités calédoniens, les milliers de retraités calédoniens risquaient de ne pas avoir de retraite à ce moment-là. Et donc, c'est ce qu'on a obtenu à Paris. Et ce budget nous permet aujourd'hui d'assurer cette viabilité.
C'est pérennisé. Ça veut dire que ça, c'est valable pour combien de temps ?
Non, c'est pérennisé.
Il faut contre les deux.
Oui, c'est pérennisé.
Il y a quand même un certain nombre de réformes qui soient faites.
Vous avez raison de préciser, parce que c'est pérennisé pour cette année. Néanmoins, ça nous empêche, enfin, ça nous oblige aussi de faire des réformes. Mais ça nous permet de faire des réformes moins sous la pression. C'est-à-dire que des réformes sur les retraites, on a passé un texte en séance du gouvernement, notamment sur l'augmentation de la durée de cotisation de 2 ans. Pour l'instant, on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite. On dit juste qu'il faudra travailler d'ici 2029 deux ans de plus. Ça, on est obligé de le faire si on veut à terme pérenniser le système de retraite. Mais même, un système de retraite doit être réformé en permanence du fait de l'évolution de l'espérance de vie de la population.
La transformation des prêts en subventions, on en a beaucoup souvent parlé, vous n'étiez pas sûr de l'obtenir effectivement. Ça se traduit comment concrètement ? On ne va rien rembourser ?
C'est l'objectif. Ouais, c'est vraiment l'objectif. Déjà, sur les 2 prochaines années, c'est sûr qu'on ne remboursera rien puisque c'est des années blanches. On l'avait dit et je l'avais dit sur votre antenne également, 8,4 milliards à rembourser dans le budget de la Nouvelle-Calédonie cette année. C'était la moitié de la masse salariale de la Nouvelle-Calédonie pour un pays et pour un territoire qui a perdu 13%, 15% de son PIB. C'était pas jouable. Et donc là, le contrat de désendettement qui a été négocié avec l'État, c'est le fait de construire une trajectoire sur de redressement de nos comptes. Ça veut pas dire du donnant-donnant, mais de dire comment on rétablit les comptes de la Nouvelle-Calédonie. Et avec ça, l'État nous donne en subvention l'équivalent pour rembourser les dettes chaque année. Donc on est sur une dette quand même de 211 milliards, ce qui était insoutenable pour la Nouvelle-Calédonie. C'est 4 fois le rendement de la TGC. Donc, pour donner un ordre d'idée, c'est 10 fois l'impôt sur le revenu, pour donner un ordre d'idée. Donc, c'est quand même une belle victoire pour les Calédoniens et surtout pour les générations futures.
Alors, vous y avez fait allusion, mais tout de même, c'est une question récurrente et que se posent, je crois, un peu tous les Calédoniens. Est-ce que cette aide de l'État est vraiment complètement déconnectée de l'évolution institutionnelle ? Ou est-ce qu'il y a une sorte de chantage, quoi ? S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de soutien ?
Non, il n'y a aucun chantage. Et j'ai entendu l'Union Calédonienne dire que l'État faisait du chantage sur ça. Ça a été vrai. Ça a été vraiment vrai que l'État faisait du chantage sur « vous devez augmenter la pression fiscale contre une aide de notre part ». Aujourd'hui, on est vraiment dans un partenariat qui est très fort avec l'État. Néanmoins, c'est lié d'une manière où si on n'a pas d'accord institutionnel, si on n'a pas une projection dans l'avenir, si on n'a pas une visibilité sur comment la Nouvelle-Calédonie va être dans les prochaines décennies, c'est, pour paraphraser un président de la République, cette aide, elle va faire pchit parce que elle va servir pour ces années-là, mais par contre, la Nouvelle-Calédonie ne va pas se redresser dans le long terme ou de manière beaucoup plus compliquée. Donc les deux sont liés, c'est-à-dire que la Calédonie doit marcher sur 2 jambes, une stabilité institutionnelle et une stabilité économique. Si c'est une jambe ou l'autre qui est seule, ça serait une Calédonie qui serait un peu bancale.
Ça nous oblige à faire des réformes et à faire en sorte que la Calédonie puisse augmenter son autonomie, contrairement à ce qu'on a vu ces dernières années.
Oui, très clairement. Et vous savez, je pense que personne ne doute de mon engagement à défendre la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Mais aujourd'hui, il faut qu'on fasse jouer notre autonomie. On est plus autonomiste aujourd'hui qu'autre chose dans la partie économique, puisque faire du copier-coller avec le niveau national, ça ne marche pas. Déjà, faire du copier-coller avec un pays de 60 millions d'habitants, c'est pas forcément raisonnable pour nous. Et faire du copier-coller avec un modèle comme celui de la métropole au niveau économique qui marche pas et qui est très, très endetté, c'est pas aussi très, très malin. Donc faisons des réformes qui nous correspondent et permettons aux Calédoniens de retrouver des libertés en supprimant un certain nombre de normes et en facilitant l'investissement et l'entrepreneuriat. Et je suis convaincu que la Nouvelle-Calédonie retrouvera de l'attractivité, retrouvera de la croissance et retrouvera de la création de richesses.
Pour revenir au soutien financier de l'État qui a permis d'établir ce budget, vous nous parliez des retraites. Le reste, comment est-ce que ça a été fléché ? Comment ça a été utilisé globalement ce soutien financier ?
En fait, on avait assuré le financement des collectivités et le delta qui devait venir de l'État devait nous permettre, et c'est ce qui a été fléché comme ça, de financer les comptes sociaux de la Nouvelle-Calédonie et le système électrique. Donc les 15 milliards supplémentaires qui ont été accordés à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'en tout c'est une enveloppe de 36 milliards à la fois en prêts et en subventions, mais qui à terme se transformera en subventions au total. Mais les 15 milliards supplémentaires obtenus dans les dernières négociations et dans la dernière ligne droite de négociation a été fléché exclusivement sur le RUAM, sur les retraites et sur le système électrique pour qu'on puisse éviter d'avoir un certain nombre de coupures d'électricité. Je crois que c'est l'actualité récente. Mais là aussi, comme la Nouvelle-Calédonie, il va falloir que Enercal fasse un peu d'effort aussi.
Vous leur en avez parlé, hein. Je crois qu'il y a eu des réunions qui se sont tenues ces derniers temps.
Oui. Et on aura des propositions à faire prochainement là-dessus.
Si on en vient à la structure même de ce budget 2026, alors là aussi, je sais que vous n'aimez pas qu'on parle d'un budget de rigueur ou d'un budget d'austérité. Ça y ressemble quand même un peu, non ?
Non, c'est, là vraiment, si ça avait été un budget de rigueur, je l'aurais dit. Moi, je considère que c'est un budget de responsabilité et de relance. De responsabilité parce qu'on doit faire des économies, mais les économies, elles doivent être vraiment ciblées là où il faut qu'on aille. On a été baisser nos interventions, nos subventions, nos frais de fonctionnement de l'ordre de 25%. On a mis en place une contrôle de gestion, une cellule de contrôle de gestion au gouvernement. Même si c'est des petites économies, à terme, ça en fait des gros. Je vais vous donner un exemple. On n'avait aucune vision sur le parc immobilier qu'on avait de la Nouvelle-Calédonie et on continue à payer des factures d'électricité ou des loyers de bâtiments qu'on n'avait plus. Donc, quand les vaches sont grasses, peut-être qu'on peut faire ça, et encore. Mais en tout cas, quand les vaches sont très maigres, l'idée est de bien faire ces économies-là. On a fait également des économies sur le budget voyage, puisqu'on a une baisse de 75% sur les voyages. Et au-delà de l'économie sur le déplacement des élus, parce qu'il y a des voyages qui sont nécessaires pour obtenir des choses, et on l'a vu sur le déplacement à Paris où c'était nécessaire de se déplacer, ce qu'on souhaite, c'est de la transparence. C'est-à-dire
parce qu'il y avait des abus quand même qui avaient été pointés du doigt.
Il y avait des vrais abus. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, dans quelques jours, je pars en Polynésie négocier un marché commun avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, plus une convention fiscale pour éviter une double imposition entre les investisseurs qui souhaitent soit venir en Calédonie, soit en Polynésie. Mais quand on fait un voyage, une mission dans une collectivité, votre agenda doit être publié et un rapport de mission doit être publié. C'est normal, c'est-à-dire que c'est des fonds publics qui doivent être, les Calédoniens doivent savoir comment c'est utilisé et surtout ce que vous avez obtenu.
On parle aussi de rapprocher un certain nombre de directions de la Nouvelle-Calédonie. Il y a peut-être des agences aussi, comme on le voit en métropole, qui pourraient être supprimées. C'est un travail que vous continuez à mener ?
Oui, et qu'on va continuer à mener cette année. On a eu beaucoup d'agences, de commissions, de fonds qui ont été créés pour faire plaisir à un tel ou tel élu. C'est-à-dire que chacun voulait son fonds, chacun voulait son agence, chacun voulait son établissement public. Aujourd'hui, avec le plan d'évolution de l'administration qu'on porte avec le président du gouvernement et Naya Wateu, qui est en charge de la fonction publique, c'est de dire qu'il y a certains établissements qui peuvent fusionner, il y a certaines directions qui peuvent fusionner. C'est ce qu'on a fait avec l'ancienne direction des affaires économiques qui a été fusionnée avec la cellule économie numérique et le service de commerce extérieur. Et ça permettra de faire des économies à terme. Pas tout de suite sur les postes, mais au moins déjà à terme sur le fonctionnement, au début sur le fonctionnement et à terme sur les postes.
Un budget de responsabilité, un budget de relance, vous dites, vous gardez une capacité d'investissement malgré encore une fois le contexte économique très dégradé.
Oui, on augmente de plus de 25% notre investissement, puisqu'on passe de 7 à 9 milliards l'investissement public. C'était une volonté très forte de la part de la Nouvelle-Calédonie pour participer à la relance. Ça fait longtemps que la Nouvelle-Calédonie ne s'était pas mis à 9 milliards. Ça a été rendu possible notamment par les économies qu'on a réalisées. Par exemple, sur la masse salariale, où on a fait 700 millions d'économies, ces 700 millions, ils ont été réinvesti dans la relance de l'activité économique. Et surtout, on a fait un travail d'identification des chantiers qui pourront être lancés rapidement pour recréer des emplois rapidement. Parce qu'il y a une chose qui nous obsède, c'est recréer des emplois. Et ça va de pair avec une autre augmentation dans le budget, qui est l'augmentation du budget de la formation professionnelle et de l'alternance pour former les jeunes calédoniens, mais également pour former ceux qui ont perdu leur emploi et qui ne pourront pas retrouver dans le secteur où ils exerçaient jusqu'à présent, parce que peut-être qu'il n'y a plus de travail dans ces secteurs-là. Donc l'idée est de les accompagner dans une reconversion.
Cette formation de la jeunesse calédonienne, c'est une leçon directe du 13 mai, c'est a été un peu le souci de tout le monde dans ce sens-là, ou c'est complètement décorrélé?
C'est une leçon du 13 mai et du pragmatisme. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de modèles qui... le modèle français en termes d'éducation et de formation est très porté sur la formation générale. On souhaite quand même réorienter pour aller plus sur de la formation professionnelle en entreprise, mais également sur de la filière technique qui peut déboucher à des emplois. On a une intelligence de la main qui est sous-valorisée. On est très français pour ça, alors que c'est des vraies compétences, c'est du vrai savoir-faire. Et surtout, il y a du
vrai. C'est très utile en plus.
Et c'est très utile. Ça gagne bien et il y a du travail. Enfin, surtout, il y a du travail.
Dans les grands travaux d'investissement pour contribuer à cette relance, à quoi est-ce que... Qu'est-ce que vous avez déterminé, par exemple? Quels sont les chantiers qui pourraient s'ouvrir?
Il y a eu 27% d'augmentation des chantiers sur les écoles, notamment pour les refaire, donc à la demande d'Isabelle Chamorro. Beaucoup de chantiers sur les routes et les ponts. Et pour la première fois, une autorisation de programme pour la deux fois deux voies jusqu'à Tontouta. C'est quelque chose qui est demandé depuis longtemps. Et là, pour la première fois, une autorisation de programme d'investissement a été mise pour qu'on puisse débuter ce chantier.
Alors, du côté des recettes de ce budget 2026, il y a l'aide de l'État. Il y a les recettes fiscales également. Bonne surprise, finalement, elles sont meilleures que ce qu'elles avaient été l'année dernière.
Ouais, on s'attendait à un atterrissage de 83 milliards de recettes fiscales. On est sur un atterrissage à 87 milliards à la fin de l'année, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On devait être à 3 milliards de droits d'enregistrement, on est à 4,6 milliards, donc c'est que ça évolue aussi. On est sur un rendement de la TGC qui est équivalent aux douanières, équivalent à celui de 2023, donc il y a des bonnes surprises. C'est pas encore le niveau qu'on espère atteindre, qui est encore plus élevé, mais c'est des bonnes prémices, et là on a voulu être très et on tablait sur une augmentation en termes de croissance de plus 1%. Même la mission interministérielle pensait qu'on pouvait se mettre à plus 2. On a voulu être un petit peu prudent et faire un réajustement à la hausse, plutôt que comme l'année dernière où on avait été un petit peu trop ambitieux et on a fait un réajustement à la baisse, ce qui est toujours très compliqué d'aller expliquer ça au président de province et au maire.
Ça veut dire qu'il y a quand même un frémissement de... Un petit début de reprise, de relance de l'économie.
La situation est encore difficile pour beaucoup de chefs d'entreprise. Enfin, j'en vois régulièrement. Néanmoins, on a de la reprise économique. On a des sociétés qui recommencent à produire et à vendre. On a une reprise du marché immobilier qui n'est pas encore... démentiel, mais avec une augmentation qui est croissante, et surtout on le voit sur nos recettes douanières, une vraie augmentation de nos recettes douanières.
Alors l'un de vos engagements, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité.
Oui.
Vous confirmez dans aucun domaine?
Je confirme. Je confirme qu'il n'y aura aucune augmentation de la fiscalité sur les Calédoniens. Ça a été et même on aura même une baisse, j'y reviendrai, mais vous savez, ça a été... Ça fait quasiment un an que j'ai repris ce secteur. Ça a été un combat permanent avec l'État pour leur expliquer qu'il ne fallait pas augmenter la pression fiscale, avec une Calédonie qui a été meurtrie par les émeutes, avec des chefs d'entreprise qui ne savaient pas s'ils allaient rester sur le territoire, reprendre leur activité ou pire, quitter la Nouvelle-Calédonie. Et augmenter la fiscalité aurait été la pire des erreurs. Donc en 2026, il n'y aura pas d'augmentation de pression fiscale tant que je serai membre en charge de la fiscalité. Au contraire, on travaille dans le cadre du plan de relance avec le Premier ministre à une baisse de l'impôt sur les sociétés, et notamment sur les plus petites, pour justement redynamiser l'économie, et que pour celles qui sont en capacité d'avoir du travail, puissent réinvestir pour faire marcher les autres qui sont aujourd'hui en difficulté.
C'est parti de l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi l'un de vos secteurs, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est une des mesures d'attractivité qu'on souhaite. On part de loin pour l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est jouable ou c'est...
Si, je serais pas face à vous si je pensais que ça serait, c'est pas jouable. Au contraire, vous savez, je crois profondément dans ce territoire, je crois profondément dans les atouts de ce territoire, et je crois que on a toutes les cartes en main nous-mêmes pour que ça reparte. Je lis hein, sur les réseaux sociaux quand on annonce qu'on veut faire venir 230 000 touristes à l'horizon 2032, je lis les commentaires en disant c'est n'importe quoi, ils rêvent, c'est des rêveurs. Moi, j'ai envie de rêver. Enfin, j'ai envie de rêver que la Nouvelle-Calédonie reparte, j'ai envie de rêver que nous ayons 230 000 touristes, j'ai envie de rêver que des investisseurs reviennent en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est pas un rêve fou, ça peut être une réalité, parce que on a, pour la partie touristique, enfin, chacun sait les paysages qu'on peut avoir sur ce territoire, si on arrêtait de bloquer les touristes, à mon avis, ils reviendraient. Sur la partie investisseur, on a des infrastructures sur ce territoire qui sont exceptionnelles par rapport aux pays de la zone. On a une situation géographique qui nous place au carrefour du Pacifique qui est exceptionnelle pour des investisseurs. On a un cadre de vie qui peut être extrêmement valorisé, des très belles filières, et donc il y a un schéma d'attractivité à mettre en place à la fois pour des investisseurs, à la fois pour des nouveaux consommateurs. Vous savez, je vois le Portugal qui réussit extrêmement bien en Europe. Ils ont dit on va accueillir des retraités étrangers sur notre territoire en les mettant avec zéro impôt. Ces retraités, ils consomment dans les commerces, ils consomment dans les parties touristiques, et ils viennent avec une sécurité sociale de leur propre pays qui vient justement permettre de financer la nôtre. Donc je pense qu'il y a des modèles à prendre, et notamment des modèles qui marchent, qui peuvent faire que la Nouvelle-Calédonie redevienne attractive.
On va reparler un peu des impôts, même si c'est moins attractif, mais la TGC, on en est ouf. Vous travaillez, j'ai l'impression, depuis des mois sur la simplification. C'est un dossier qui va aboutir ou non ?
Des années sur la simplification de la TGC. Moi, je vais vous dire mon profond sentiment. Enfin, au-delà de la TGC, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on simplifie les choses. Il faut qu'on arrête de faire du copier-coller avec de la métropole, avec des multiples taux sur les impôts, avec des multiples taux sur les cotisations, avec des normes qui emmerdent les gens. Faisons simple. Aujourd'hui, la TGC, on a, au niveau des services fiscaux, beaucoup de gens qui se font redresser parce que c'est beaucoup de petites entreprises et ils ne savent pas dans quelle case il faut se mettre. Est-ce que je me mets à 3? Est-ce que je me mets à 11? Est-ce que je me mets à 22? Est-ce que les services qui sont à 6, je le mets avec la partie qui est à 3? Et du coup, ces petites entreprises, elles se font souvent redresser. Le consommateur qui devait avoir de la transparence pour voir exactement ce qu'il payait comme taxe, avec 5 taxes, c'est totalement illisible. Aujourd'hui, on a des travaux qui ont été menés avec les partenaires sociaux qui nous permettent de proposer un texte qui est une TGC avec un taux zéro et un taux à 9%. En Australie, c'est 10%. Et au moins, on ne se pose plus la question. C'est le texte que je tenterai de proposer. Ensuite, est-ce qu'il est adopté? Il n'est pas adopté. Mais en tout cas, on fera tout pour que ça marche. Il faut donner la liberté nécessaire aux entreprises pour que ça marche. Mais il faut également mettre en place un système de contrôle pour pas que les prix dérapent.
Et avec un rendement assuré, avec un taux unique,
avec
ça
le même
rapporterait
rendement,
autant
avec
que...
Avec le même rendement. L'idée n'est pas d'avoir un rendement supplémentaire, l'idée d'avoir une simplification.
Les autres chantiers du gouvernement pour les mois qui viennent, maintenant que le budget est adopté, c'est notamment le Ségur de la santé. Là, vous faites un peu du copier-coller. Hein.
Totalement.
Ségur de la santé.
Totalement dans le titre, mais voilà. on va changer de nom. C'était pour l'idée. C'était cette initiative qu'on mène avec Claude Gambet qui est en charge de la santé, avec Naya Ouattéou qui est en charge de la fonction publique. Vous savez, enfin, depuis que j'en charge les comptes sociaux depuis quelques mois, on vient me voir pour m'expliquer qu'il y a une pénurie de médecins sur ce secteur-là. Les autres me disent que l'inverse, il n'y a pas de pénurie. On vient me voir pour demander des primes. J'ai 5 montants qui sont différents. Donc, ce qu'on a proposé avec mes collègues, c'est posons-nous, enfin, mettons en place une méthode de travail. Et on a entamé une grande phase de concertation avec les différents professionnels, partenaires sociaux et collectivités pour travailler en amont sur les différents textes, arriver à une séquence de travail où on identifiera un plan. Et surtout sur des thèmes qui seront très précis, qui seront notamment la reconnaissance du travail qui a été fait par les personnels soignants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup évoqué, encore une fois, la question de l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie et comment faire revenir des médecins et du personnel médical. Mais on a un peu oublié ceux qui étaient là. Et ça, je vous le dis très, très franchement, c'est-à-dire que...
Ils s'en sont plaints d'ailleurs, hein. Ils ont rappelé qu'on les oublie un peu.
Et je leur ai dit, ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils ont raison parce qu'il y a du personnel médical qui était là pendant le Covid, il y a du personnel médical qui était là pendant les émeutes, et ces gens-là, ils ont eu comme impression qu'on allait mieux traiter ceux qui arrivaient que ceux qui avaient fait des efforts. Donc il faut faire de l'attractivité, c'est important, il faut faire revenir du monde, mais il faut bien traiter aussi le personnel qu'on a au niveau local. Donc ça, c'est une première étape. Une deuxième partie qui est vraiment sur la gouvernance de notre système de soins. Enfin, on a un millefeuille là aussi où on peut faire des économies assez importantes. Et justement, la partie économie de dépenses de santé. Et ces économies, comment on peut les réinvestir dans un système de santé qui est plus performant et qui génère d'autres économies à long terme, parce qu'on a une population qui est bien soignée.
À quelle échéance vous pensez pouvoir le tenir, ce Ségur de santé ?
L'objectif est début avril.
Ah oui, c'est très, très bientôt donc.
Oui.
Autre grand secteur sur lequel il faut bien se pencher, c'est celui du secteur du nickel. Alors là aussi, l'État a l'air de vouloir lui aussi apporter, enfin contribuer en tout cas à la solution. Au gouvernement, vous avez pris la décision récemment d'ouvrir temporairement les réserves métallurgiques à l'exportation. C'est un secteur qui va, là encore, pouvoir reprendre.
Oui, l'objectif est vraiment de pouvoir sauver le secteur nickel en Nouvelle-Calédonie, puisque on a aujourd'hui un secteur qui est, enfin tout le monde le sait, en très grande difficulté. Donc il faut leur à la fois donner des perspectives aux opérateurs qui veulent le reprendre. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et je crois que le texte qui est passé à l'unanimité des membres du gouvernement du fait d'ouvrir les réserves métallurgiques donne du cash sur cette partie. Et on travaille sur la partie transition énergétique qui est essentielle pour la suite et baisser le coût de l'énergie. Ça, c'est un élément qu'on travaille avec Alcide Ponga, mais également avec Sonia Baquet sur la partie province sud et également avec la province nord.
La relance du secteur du nickel, c'est pas un élément indispensable pour permettre vraiment à l'économie de redécoller pour pouvoir gagner en autonomie?
C'est essentiel. C'est essentiel. Il faut aujourd'hui que nos usines redeviennent rentables et qu'on puisse revenir. Au moins déjà qu'ils arrivent à perdre de l'argent avant de redevenir rentables et qu'on arrive à recréer de l'emploi. Je crois que c'est un des sujets sur lesquels on travaille activement avec les provinces et avec les partenaires sociaux.
On va bientôt arriver au terme de cet entretien, Christopher Gégès. On est obligé, bien sûr, de s'intéresser aux questions d'avenir institutionnel. La réforme constitutionnelle a commencé son cheminement, comme on dit. Elle a été adoptée par le Sénat. On se pose des questions pour l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que le processus dit de Bougival va aboutir, ou est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui?
Déjà, si le processus de Bougival n'aboutit pas, je ne sais pas quand il aboutira à un processus institutionnel. C'est-à-dire que si ça n'aboutit pas là, il faudra attendre la prochaine présidentielle et il faudra attendre après les présidentielles pour ça. Déjà, je salue la décision des sénateurs d'avoir accompagné ce texte-là. On verra ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais au final, on ne demande même pas aux parlementaires de dire s'ils sont pour ou contre Bougival. On leur demande de permettre de donner la parole aux Calédoniens. C'est ça qui est demandé. C'est-à-dire de dire que les Calédoniens puissent s'exprimer sur Bougival. Parce que tout le monde s'exprime, sauf les Calédoniens. Et donc là, on demande juste aux parlementaires, donnez-nous la parole pour que les Calédoniens, dans leur ensemble, puissent dire est-ce qu'on est pour ou contre Bougival et est-ce qu'on veut avancer sur ça. Et donc, moi j'ai défendu Bougival, je défendrai Bougival, je défendrai tout ce qu'il y a dedans. Mais la seule parole qui vaille, c'est celle des Calédoniens. Si le Parlement décide de ne pas donner la parole au peuple, c'est quand même assez particulier.
Vous auriez préféré finalement une consultation anticipée des Calédoniens? Ça aurait peut-être...
Moi, je souhaite qu'on avance. Enfin, je souhaite vraiment qu'on avance et que la Calédonie arrête de faire du surplace et qu'on se mette en mouvement à la fois sur l'institutionnel et sur l'économie. L'économie, ça avance. Il faut que l'institutionnel avance aussi.
Et les deux sont liés, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même une condition au redressement de la Nouvelle-Calédonie.
Hein. Exactement.
Christopher Gégès, membre du gouvernement en charge du budget, notamment. Merci d'accepter votre invitation.
Merci à vous.
La fin de ce magazine, Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et dans un instant, vous le retrouverez en audio et en vidéo sur le site internet d'RRB. Excellent après-midi, votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h.